Le journal Ajaccio-Cotonou. La commission électorale indépendante a proposé au Parlement un calendrier électoral. Selon ce document, le président élu de la 3e République pourra entrer en fonction le 25 juin 2006. Qu'en pensent les députés? Vous entendrez l'un d'eux dans cette édition. Tension latente à l'inspection provinciale de la police nationale à Kisangani. À la base, le retour du général Ignace Mungenjo Ndouki. Ce dernier suspend des officiers et en arrête d'autres, créant ainsi un climat de méfiance au sein de cette inspection. À Kinshasa, les syndicats du secteur public et privé se serrent les coudes pour faire valoriser leurs droits auprès du gouvernement. Les raisons de cette fusion dans ce journal avec le président de ce nouveau conseil, Kibiswa Nopes. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président élu de la République démocratique du Congo pourrait entrer en fonction le 25 juin 2006. C'est ce qu'indique le calendrier prévisionnel des scrutins électoraux proposé au Parlement par la Commission électorale indépendante. Selon l'agence de presse ACP, ce calendrier devrait s'adapter à la loi électorale qui sera promulguée fin janvier 2006 après un vote au Parlement de la transition. Toujours selon ce calendrier prévisionnel de la CEI, la convocation de l'élection présidentielle congolaise est fixée au 1er février 2006. La commission électorale indépendante envisage l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle et des législatives pour l'Assemblée nationale le 9 avril, suivi de la proclamation des résultats provisoires le 17 avril prochain. Comment réagit-on à l'Assemblée nationale? On écoute Mwando Ntsimba, président de la commission politique, administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement. Il est interrogé par Eugène Kabambi.
Il y a le fait que le mois de mars, c'est la saison la plus pluvieuse. Que va-t-il se passer ce mois-là à l'intérieur? Moi, je viens de l'intérieur. On ne peut plus faire un kilomètre à moins d'une heure. Donc, ça posait un problème. Et en même temps, je crois que la commission électorale indépendante, à l'expérience du référendum, doit porter des corrections à certaines démarches, de telle sorte que ces élections-là, qui seront autrement plus sensibles, soient organisées de la manière la plus proche possible de la réalité.
C'est-à-dire quoi?
Il faut que la commission électorale indépendante puisse bien avant afficher le nombre de bureaux de vote. Chaque nombre de bureaux de vote doit avoir à l'entrée la liste de ceux qui doivent voter dans ces bureaux-là, de telle sorte que les gens ne soient pas en train de courir ou qu'on n'invente pas comme ça s'est passé maintenant ici, qu'on dise on crée des bureaux spéciaux où les gens vont voter. Et vous voyez ce que ça crée à un moment donné comme cafouillage avec risque d'une sorte de violation de la loi.
Cap sur le Nord Kivu, où deux corps ont été retrouvés flottant dans les eaux du lac Kivu à la hauteur du quartier de Kashiro à Goma. Il s'agit d'un père et son fils qui ont été assassinés et jetés dans le lac le week-end dernier. Visiblement, ils ont été tués à coups d'armes blanches après avoir été ligotés. Quelques suspects sont déjà arrêtés à la police urbaine de Goma. Le point avec Charlene Tirisha.
L'homme, 51 ans, et son fils de 14 ans ont disparu depuis samedi dernier. Selon des sources, le père gérant de la résidence du directeur de l'ONG Diane Fossé Gorilla Fund International a quitté son poste vers 16h le même jour pour se rendre à un rendez-vous. Vers 18h, il passe par chez lui et il aurait dit qu'il aurait gagné son bureau. Pourtant, il ne passe pas la nuit au travail selon sa famille. Il part alors à bord d'une moto de service accompagné de son enfant. Le lendemain matin, un des enfants va chercher son père au travail. On lui dit qu'il ne s'est pas présenté depuis l'après-midi de la veille. La police et les services de renseignement sont saisis et les recherches commencent. Le corps du père sera retrouvé ce mercredi matin flottant dans les eaux au bord du lac Kivu à quelques 70 mètres du lieu de son travail, non loin de l'usine de traitement du café Sotraki. Il porte des traces d'étranglement et des coups de couteau sur la tête. Le corps de son fils, lui, a été repêché mardi en début d'après-midi à quelques 300 mètres de la résidence où travaillait son père. Les oreilles ont été mutilées de même que sa bouche. Sa tête porte également des coups de couteau. Des enquêtes sont en cours. Déjà trois personnes, dont un domestique de l'organisation Diane Fossé Gorilla Fund International, sont préventivement détenues à la police urbaine de Goma. Charles Ndurgicha, Goma, Radio Okapi.
Les trois suspects activistes de l'ONG Diane Fossé ont été arrêtés au moment où leur ONG commémore cette semaine à Goma ses 10 ans d'activité au Congo et les 20 ans de la mort de Diane Fossé. Pour mémoire, le docteur Diane Fossé a été assassiné par des hommes non identifiés alors qu'elle faisait des études sur la façon de familiariser les gorilles à l'homme. Elle menait ses études entre le volcan Karisimbi et Visoke situé au Rwanda. C'est grâce au travail du docteur Fossé qu'il est possible de visiter des gorilles aujourd'hui à l'est de la RDC. tension latente à l'inspection provinciale de la police nationale à Kisangani, des officiers suspendus de leurs fonctions, certains autres arrêtés, quelques bureaux scellés, méfiance observée entre des camps qui se dessinent plutôt. Tel est le climat qui règne à l'inspection provinciale de la police depuis le retour à Kisangani du général Ignace Mongenjo Ndouki il y a près de 2 semaines. José Deschartes Minga pour les détails.
C'est le 16 décembre que l'inspecteur provincial de la police a regagné Kisangani après près de 8 mois d'absence. Le général Mongenjo Ndouki Ignace était officiellement rappelé à Kinshasa pour consultation. Selon plusieurs sources à la police, Ignace Mongenjo est rentré sans avoir reçu l'aval de l'inspection générale à Kinshasa. À son retour, le chef de la police a explicitement refusé de recevoir son intérimaire. Même sort pour certains officiers qui voulaient lui présenter des civilités. Le 20 décembre, lorsqu'il débarque à l'inspection provinciale, le général force la porte d'entrée du bureau du directeur de renseignement avant de le sceller et d'ordonner la suspension de son chef. Le médecin superviseur de la police est mis aux arrêts pendant 2 jours, selon plusieurs témoignages, avant d'être forcé à procéder à une remise et reprise avec un infirmier. La trésorière de l'inspection provinciale est aussi suspendue après plusieurs menaces, selon des témoignages. Cette attitude a créé un climat de méfiance au sein de la police. De son côté, le général Mongenjo a déclaré que c'est sur ordre du ministre de l'Intérieur qu'il a regagné son poste. Au sujet des arrestations et scellés de bureau, le général Mongenjo Ndouki a promis de s'expliquer prochainement. Kisangani, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
À l'Équateur, ce sont les marins qui font la loi aux habitants de Zongo, torture, amendes illégales et arrestations arbitraires. Voilà le lourd tribut qu'ils font payer à la population de cette ville du nord-ouest de l'Équateur. Selon des témoins joints au téléphone, ces militaires imposent leur forfait sur tous les habitants qui font des navettes avec leurs produits le long de la rivière Ubangi. Une des victimes est membre du comité de lutte anti-tracasserie, CLAT, témoigne au micro de Paul-Richard Malengela.
C'était hier. Un marin voulait poignarder un civil qui transportait un seul sac. Je suis intervenu pour demander aux militaires de le conduire plus tôt auprès du service des douanes. Alors ils m'ont pourchassé. J'ai fui pour passer la nuit ailleurs. Ils ont tabassé plusieurs gens du quartier pendant la nuit. Même des innocents qu'ils ont jetés au cachot. C'est ce matin vers 5 heures qu'ils m'ont attrapé. Ils m'ont copieusement rossé, disant que c'est moi qui entête la population à ne pas payer la taxe de traversée à 100 francs congolais. Alors que moi, je dénonce plutôt les tracasseries. Ils ont ainsi érigé 3 barrières. Le premier groupe vous fait payer à l'accostage. À 50 mètres de là, vous payez au deuxième groupe. Et puis à un troisième groupe à 100 mètres de la rive. On ne comprend plus rien. À la moindre résistance, on vous frappe.
Restons en Équateur pour signaler en bref que 56 candidats à l'intégration ont quitté Mbandaka cet avant-midi pour leur brassage à Kisangani. C'est la première vague transportée par un vol du PAM, Programme Alimentaire Mondial. Environ 350 autres éléments attendent encore leur évacuation à l'aéroport de Mbandaka pour Kisangani. Tous venaient de sortir du centre d'orientation de Boka.
Il est 18h08 à Kinshasa, une heure de plus à Kalemie. La suite du journal avec vous, à Djadjipou.
Direction Katanga, justement, pour signaler ce drame à Kalemie. Un enfant du quartier d'Ave a eu ce mercredi la main arrachée par un engin qu'il manipulait. La victime était entourée de 3 frères et sœurs qui, eux, ont été épargnés. Cet incident vient rappeler à la population de Kalemie que les mines et autres engins non explosés sont toujours présents dans la ville. Reportage expédié Mamba Mobi.
Quartier d'Ave, avenue Manono, au numéro 10, à 6h30 ce mercredi matin. Plusieurs dizaines de curieux sont rassemblés dans la parcelle. Ils sont tous horrifiés par le spectacle du sang. On voit du sang partout, sur le sol, sur le pavement, sur les chaises, sous le robinet. C'est le sang du petit Sébastien, âgé de 8 ans. La voix entrecoupée de sanglots, la petite Félie, 6 ans, raconte ce qui est arrivé à son frère. C'était un petit objet noir comme un crayon de beauté. Il l'a ramassé au moment où nous étions endormis. Quand je me suis réveillé, j'étais assise là. Tout d'un coup, nous avons entendu un bruit. Nous avons vu du feu. Nous avons pris la fuite. Lui était couvert de sang. Les doigts ont été coupés. Nous étions 4. Lui seul a été touché parce que c'est lui qui avait l'objet. D'après Dr Franck Bitilassi, médecin et directeur de l'hôpital général, Sébastien a eu 2 doigts arrachés et reçu des éclats en pleine figure. De l'avis même du médecin, une radiographie s'impose. Et aussi, les jours de l'enfant ne seraient pas en danger. L'accident s'est produit au quartier d'Ave. Ce quartier a été le théâtre de plusieurs affrontements au cours de la guerre de 1998. L'accident de ce mercredi matin est venu rappeler à tous que la ville de Kalemie n'a pas encore été totalement débarrassée des engins non explosés. Il faut noter par ailleurs que l'explosion a eu lieu à plus ou moins 300 mètres des bureaux de l'ONG d'Antioched. Cette ONG danoise s'emploie aujourd'hui à rechercher et déminer les engins non explosés sur toute l'étendue du Nord Katanga. Expédie Mwamba Mobi, Radio Kapi Kalemie.
À Chicapa, dans le Kasaï occidental, un bébé volé a été retrouvé. L'auteur de cet enlèvement, une femme, a quant à elle été arrêtée. La police a trouvé l'accusée à Moutena, une localité située à plus de 40 km de Kamonia, lieu où elle a commis son forfait. Marie-Chantal Lumba pour les détails.
Selon le commandant Kalamba de la police nationale congolaise à Kamonia, l'accusée se rendait vers Diboko avec l'enfant. C'est ainsi que ces hommes ont identifié la femme après recoupement des indices récoltés sur le terrain. Mwamputu relate avoir constaté la disparition de sa fille de 3 mois il y a 5 jours. Elle était allée prendre bain lorsqu'à son retour, sa petite Poutou n'était plus à la maison. Elle a tout de suite alerté la police. Jusqu'à présent, les mobiles de cet enlèvement ne sont pas encore connus. La police compte remettre l'accusé entre les mains de la justice pour éclaircissement dans cette affaire. Entre-temps, la mère se rend vers Moutena pour retrouver sa fille qui, selon la police, est en bonne santé. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Okapi.
Revenons dans la capitale pour signaler la fusion hier des syndicats du secteur public et privé. Ils veulent défendre ensemble leurs intérêts auprès du gouvernement. Cette décision a été prise à l'issue de l'Assemblée générale qu'ils ont tenue hier au siège du COSEP à Kinshasa. Le président du nouveau conseil syndical des services publics et privés, Nopes Kibiswa, explique les raisons de cette fusion. Il est joint au téléphone par René Capita.
Les raisons qui nous poussent à nous réunir, c'est d'unir nos forces pour être plus performants et plus forts dans les défis qui nous attendent, notamment les échéances du 31 décembre données par le syndicat des enseignants du Congo. C'est pour coordonner notre action de manière un peu plus harmonisée que cela n'a pas été le cas jusque-là, face à un même employeur. C'est justement à ce moment que l'État doit penser à ses vaillants fils et filles qui travaillent pour la nation. Nous ne voulons pas que la légitimité que nous allons conférer aux individus soit utilisée demain contre nous. Nous voulons qu'avant les élections, qu'ils puissent respecter les engagements qu'ils ont pris avec nous, notamment le barème de Moudi. Nous ne voulons pas les laisser aller aux élections calmement comme s'il n'y avait rien. Ils doivent respecter ces engagements-là, tout au moins un début de respect.
Et puis, il faut signaler que parmi les syndicats réunis dans cette plateforme, on retrouve le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, le syndicat des magistrats du Congo, CINEMAC, et le syndicat des cadres du secteur des services, SINCAS. Et puis, 135 ex-soldats de l'armée du Zaïre réfugiés à Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo-Brazzaville, passent des moments très difficiles. Bon nombre d'entre eux ont abandonné le métier d'armes en 1996. Ils exercent des petits métiers dans la capitale économique du Congo-Brazzaville pour survivre. Notre correspondant Arsène Séverin les a rencontrés à Pointe-Noire.
Ils sont très nombreux à avoir gagné Brazzaville d'abord, puis Pointe-Noire ensuite, puis le maréchal Mobutu en 1996. Les ex-phases font face à de sérieuses difficultés à leur lieu d'exil. Nombreux logent dans des maisons de fortune à Côte-Mater, une localité située à environ 10 km de Pointe-Noire. Ici, ces militaires exercent les petits métiers pour survivre. Ils sont donc devenus des cordonniers, des maçons, des charbonniers. Ils cultivent des champs et pratiquent la pêche. Aucune assistance de la communauté internationale ou des ressortissants de la RDC au Congo-Brazzaville, encore moins du pays d'accueil. Actuellement, 2 cadavres, dont un soldat, congèlent à la morgue de Pointe-Noire, faute d'argent pour les obsèques. Mais un seul vœu pour tous ces ex-phases, habitants à Côte-Matez, le retour au pays natal. Depuis Côte-Matez, à Saint-Séverin, Radio Okapi.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Rappelons surtout que vous pouvez également la suivre sur notre site internet www.radiookapi.net. Quant à moi, je vous retrouve à 20h, heure de Kinshasa, pour la prochaine édition en langue française sur Radio Okapi. Excellente condition d'écoute.